bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour et bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, l'humeur de Guillermo Guise et Tanguy Pastureau. Au programme aujourd'hui, Yvan Attal, la bande originale de Gérard Jugnot et Isabelle Mergault et en live, Juliette Armanet. C'est le meilleur de la bande originale, c'est parti.
Bonne humeur ! Et ça ne fait que commencer.
Et non, ça ne va pas durer car nous allons parler de la pièce de Florian Zeller, Le Fils, que j'ai eu la chance d'aller applaudir hier et qui m'a bouleversé tellement elle est intelligente, elle est tendre, elle est particulièrement émouvante, mais aussi drôle. J'avoue que je ne m'attendais pas à rire. Et il y a des vannes, il y a des pures vannes qui arrivent et en plus qui arrivent au moment, presque à des moments les plus tendus ou les plus
ça soulage,
dramatique. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
Oui, parce
vous êtes
que
sur scène.
C'est quand même une pièce qui, voilà, c'est une pièce qui amène à réfléchir.
On va parler du sujet. Je voulais juste évoquer Élodie Navarre, Anne Consigny et Rod Parado qui sont
Jean-Philippe Puy-Martin, Raphaël Magna Bosco. Voilà, je les compte.
C'est vrai, tu as raison.
Docteur et infirmier.
Absolument, absolument. Mais tout repose autour de ce quatuor composé d'une histoire. On peut avoir l'impression de l'avoir vu 25 000 fois, cette histoire, c'est-à-dire un papa marié avec une femme et qui ont un enfant. Il quitte sa femme et donc garde partagée ou alternée avec cet adolescent et il refait sa vie avec une autre femme avec laquelle il a un bébé. Et ça, c'est le point de départ. On a compris le rapport avec ce fils, son père, sa mère et la belle-mère, entre guillemets. Mais ces choses ne seront pas simples, notamment chez qui il va vivre, comment le garde partagé ou pas, et les tensions qui vont naître de cette situation.
Moi, ça m'a beaucoup touchée. Je ne vous ai pas encore vu sur scène, Yvan Attal, mais j'ai lu le texte avec beaucoup d'attention.
On vient de commencer, vous êtes pardonné.
Oui, mais je vais me rattraper.
Quatre représentations.
Ouais. Nagui a vu les quatre.
C'est ça, mais ça, c'est la fin de Nagui. Et c'est vrai que c'est vraiment bouleversant parce que comme vient de le dire Nagui, c'est une situation somme toute assez maintenant commune, ces histoires de séparation, mais c'est de voir l'impact sur cet enfant qui sans doute rêve encore secrètement que ses parents se remettent ensemble, qui est pourtant plus un enfant, c'est un adolescent quand même, il est au lycée.
Oui, il va passer son bac. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas non plus en réalité cette séparation. C'est quand même aussi un prétexte. On sent que c'est pas la raison de son mal-être.
Non, en tout cas, il y en a plusieurs, et c'est justement ce qui permet de lire ça très attentivement.
Ouais. Il vit mal la séparation, mais aussi il a le mal de vivre.
Exactement.
Il a un problème. Exactement. Il a un problème dans sa peau. Il y a aussi un petit côté dans le jeu. J'allais dire incestueux ou un côté oedipien dans la manière dont il regarde sa maman, dont il caresse la joue. On sent, non mais c'est vrai, il y a un rapport dans le...
Bah, surtout dans ce moment de fragilité, il trouve un réconfort chez sa maman.
Il est câlin, il fait des hugs et en même temps il est dans une espèce de compétition. Pourquoi elle? Quel est le problème? Et vous passez par tous les états, vous le papa du fils, par tous les états, état de, évidemment d'amour pour son enfant, état d'énervement avec « mais c'est, j'ai quand même le droit de tomber amoureux et de refaire ma vie, tu n'as pas jugé ma vie », et on se projette en se disant quelle est de la difficulté aussi à éduquer, comment, et vous êtes vous-même papa, comment faire passer des messages à un ado.
C'est surtout ça d'ailleurs au départ quand j'ai lu la pièce de Florian Zeller, c'est en ça qu'elle a résonné de manière un peu personnelle et intime, c'est que j'ai traversé moi aussi l'adolescence de mon fils, évidemment la mienne, ça m'a ramené aussi à mes souvenirs, à essayer de comprendre comment j'étais à cette époque-là, mais en même temps j'avais un fils devant moi, et un fils, d'ailleurs je peux le dire, parce que je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir en parler, mais c'est vrai qu'il était adolescent, très en colère, quoi. Donc ça a été on a eu des rapports conflictuels, et que c'est une chose terrible tout d'un coup de voir son fils, de pas pouvoir avoir ce fils qu'on croyait avoir, et surtout être le père qu'on croyait être, ça veut dire capable de tout résoudre, de passer les choses tranquillement, d'être le chef de famille, etc.
Pas reproduire peut-être des erreurs que d'autres ont commises.
Oui, et puis
dire
aussi.
Les mêmes phrases.
Ça veut dire il y a aussi ça dans la pièce. À un moment, je trouve que c'est une scène assez touchante quand je réalise que je dis les mêmes choses que mon père, alors que je détestais quand mon père me disait ce genre de choses.
Mais on fait tout ça.
Et oui.
On fait tout ça.
Et oui.
Tout ça. Mais c'est ça qui est beau, ça qui est fort. C'est-à-dire que quand on est gamin, on se dit, mais jamais je ferai ça quand je serai père. Et on se rend compte que finalement, avec un peu de recul et de jugeote, on a tous les mêmes réflexes.
Les bons, ouais.
Ouais. En tout cas, c'est le même réflexe quand on est père, mère. C'est le même réflexe dans la manière d'éduquer l'enfant. Et cet enfant, extrêmement bien joué par Rod Parado, qui m'a dit hier soir que c'était sa première pièce de théâtre.
Absolument, c'est la première fois qu'il monte sur scène. Oui, oui. Je trouve qu'il dégage quelque chose de fort. Il a un truc à la James Dean.
C'est-à-dire qu'il a
un mal-être comme ça qui dégage.
Il l'intériorise et c'est par les pores de la peau que tout passe, par des jambes qui tremblent. Même quand il est debout. C'est avec une sublime mise en scène de Ladislas Chola qui, là encore, nous permet de voyager, de passer d'un décor à un autre par presque des effets de magie, d'apparition ou de disparition.
Sans changer de théâtre. Ouais.
Pardon ?
Sans changer de théâtre. Ouais.
C'est assez rare. Hein,
c'est incroyable.
C'est rare.
Ladislas, bravo, chapeau.
Tu ne bouges pas de ton fauteuil.
De ton siège.
Et t'as plein de trucs différents. Non, mais c'est fort. Il n'y a pas d'entracte, il n'y a pas de changement. Il y a un rythme et une pression psychologique assez forte. Mais justement, est-ce que c'est vraiment le point de vue du fils que nous, spectateurs, nous vivons ? Ou c'est le point de vue des parents ? Ou finalement, chacun y voit
Je ne sais pas, je pense. Vous êtes spectateur, moi je joue la pièce de l'intérieur, c'est difficile. Je pense qu'on passe d'un point de vue à un autre, d'ailleurs. On est trimballé un peu dans la pièce. D'ailleurs, on passe aussi par la mère, par la belle-mère. Ouais. Il y a des choses qui se passent dans ce couple. Avec mon ex-femme, il y a aussi des choses assez belles. Moi, quand je joue la pièce, je suis de temps en temps aussi un tout petit peu spectateur et j'entends des choses nouvelles. Des fois, je sors, je suis derrière, j'entends encore des choses nouvelles. Mais je crois qu'il y a quand même le point de vue, on est trimballé entre le point de vue de cet enfant et de son père principalement.
Enfin bref, ça donne la chair de poule. Je veux vraiment vous donner envie de voir cette pièce qui c'était sale comble. Donc je vous rassure, ils sont pas en train de dire on vous en supplie, venez nous voir avant que ça s'arrête. Loin de là. Je pense même qu'il va falloir se battre pour trouver des places. C'est la pièce à voir.
Suffit d'appeler le théâtre.
Élodie Navarre porte aussi. Au début, on la voit toute frêle, toute jeunette, en se disant c'est la jeunette, voilà. Le père a déjà vécu une histoire et vit une deuxième vie, le syndrome de la cinquantaine, en disant maintenant je vais aller chercher une gamine de 20 ans. Et donc elles peuvent paraître comme ça fragiles au début et elles prend une dimension aussi de plus en plus forte.
Elle se retrouve d'un coup avec deux enfants, ça veut dire. Elle s'imaginait mettre au monde son premier enfant et elle se retrouve aussi avec un adolescent, quoi, d'un coup.
Et à gérer aussi le père et à essayer de lui dire comment éduquer. Le problème là-dedans, dans cette crise d'adolescence, c'est aussi la communication, ce qui est dit et les non-dits. Il y en a beaucoup.
Probablement, mais en même temps, il y a quelque chose de très mystérieux sur ce passage-là de l'enfance à l'âge adulte. Il y a une espèce de sas, tout le monde s'interroge. Moi, j'ai toujours pas compris. J'ai l'impression qu'on a envie d'être un adulte, on n'a pas encore les moyens d'être un adulte. Mais dans le cas du personnage que joue Rod, je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux. Une sensibilité, une chose qui fait que... On trouve pas sa place. On voit beaucoup, beaucoup de jeunes comme ça. D'ailleurs, on est toujours un peu angoissé de se dire en leur demandant ce qu'ils vont faire. On sent qu'ils ont pas trouvé, qu'il y a pas de passion encore. Et c'est rassurant de se dire, il veut faire ci, il veut faire ça. Et puis, on a toujours besoin de se rassurer, nous, avec eux. Mais
on a peur aussi qu'ils se fassent du mal. On a peur de ceux qui font des scarifications. On a peur de ceux qui portent atteinte.
Qui se droguent, qui machin. D'ailleurs, je lui pose ces questions. Je lui dis, mais tu drogues? Il se moque de moi.
Qui sèche. Parce que c'est ça aussi l'histoire.
Mais ça commence comme ça. C'est quand même.
Se rendre compte qu'il ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas été à l'école.
Voire qu'il n'est jamais allé au bahut. C'est ça. Ouais.
Ça commence comme ça. Ça veut dire, on découvre qu'il va pas à l'école, qu'il ment à ses parents, qu'il commence à cacher des choses sous son matelas. Et est-ce que c'est une crise d'ado ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Voilà.
Alors que c'était un enfant rayonnant.
Absolument.
C'est ça, c'est très touchant quand la mère, qui est perdue aussi, comme le père, essaie de se souvenir de l'enfant qu'il était et de dire, mais c'est encore plus incompréhensible. Pourquoi il souriait tellement? C'était un petit rayon de soleil. Vous l'appelez comme ça.
La bascule est violente. Ouais. La bascule est violente quand on passe de cet enfant souriant, rayonnant, plein de vitalité, etc. Et que tout d'un coup, bam, on voit son enfant, cheveux gras, en colère, mal, qui a perdu ce L'ancieux, sourire. Ouais. On a l'impression qu'on a raté quelque chose, et là, il y a une culpabilité énorme.
La culpabilité d'avoir divorcé, de s'être séparé.
Pas forcément, pas forcément, même quand on est...
Non, la référence est toujours donnée aussi de dire avant, quand nous étions tous les trois, tout allait bien.
Là, dans la pièce, mais par exemple, moi, dans ma vie, quand j'ai vu mon fils, tout d'un coup, perdre ce sourire d'enfant et passer dans l'adolescence,
Toujours avec sa maman.
J'étais toujours avec sa maman, et on se dit, il y a quelque chose qu'on a raté, on n'a pas su écouter, voir, et donc c'est terrible, cette culpabilité.
Et puis la culpabilité aussi d'être un nouveau père, parce que c'est ça, et c'est d'être partagé entre deux enfants, c'est-à-dire que votre personnage a un nourrisson, il a un ado, et...
Il a des nuits courtes.
Il a des nuits compliquées.
Le bébé ne fait pas encore ses nuits.
Il a des nuits compliquées, et il se dit...
Très beau bébé, d'ailleurs, je ne sais pas qui joue le bébé, mais il a déjà des cheveux, il est assez impressionnant.
Il est bien fait.
Mais il est bien fait.
En tout cas, moi, ça m'émeut beaucoup de le prendre dans mes bras tous les soirs. Ça me ramène à 20 ans en arrière.
Exactement, moi aussi, parce qu'il y avait une tignasse aussi. Les bébés à tignasses, ça existe. Oui, on croit toujours que les bébés...
Les bébés touffent. Je viens de l'inventer.
En marché noir, c'est les plus chers.
Un petit mot valise.
Mais en tout cas, voilà, c'est ça aussi qui est très touchant, c'est qu'il est partagé. Il doit être là pour soutenir son ado, mais il ne doit pas non plus oublier son, entre guillemets, son nouveau cercle familial. Et d'ailleurs, votre jeune compagne est dans un premier temps dans un rapport un peu primitif au clan. Et elle se dit, mais attends, t'as un enfant, on doit être unis, on doit faire avancer notre foyer.
Et elle s'inquiète pour ce nouvel enfant aussi, quoi. Ouais. Sa place dans cette histoire. Il contamine tout le monde, cet adolescent.
C'est ça.
Une pièce extrêmement bien écrite par Florian Zeller, extrêmement bien mise en scène par Ladislas Chola, extrêmement bien jouée par Yvan Attal et Odile
Nava.
Zeller est quand même le spécialiste des fresques familiales, parce que là c'est le fils, mais on a eu la chance de voir d'autres pièces.
Oui, mais sauf que c'est pas que.
Non, mais il a talent pour parler de.
Voilà, ce qui est fort, c'est que c'est pas que un jeu de cette famille. On pourrait dire il exploite une veine comme ça et un succès avec le père magistralement porté par Robert Hirsch. Ensuite, il y a eu
La Mère, ou plutôt avant.
Ah, c'est Catherine Yégel.
Je crois que c'était d'abord Yégel dans La Mère, Hirsch dans Le Père.
Et ensuite, donc, le fils avec Rod Parado, puisque c'est lui qui joue le fils. On peut se dire, ok, il exploite un créneau, mais pas du tout. Non. C'est tellement bien écrit. Et puis, on sent, et je ne sais pas, c'est même pas une question si vous connaissez la réponse, Yvan, mais on sent qu'il y a aussi du vécu. Vous le ressentez, vous, en jouant, en vous disant, vous vous projetez à la fois dans vos propres crises d'ado quand vous étiez jeune et à la fois dans les crises d'ado de votre fils une fois que vous êtes papa. Pareil, moi j'étais dans la salle, je me voyais soit parler à mes parents, soit entendre mes enfants me répondre de telle ou telle manière, avec toujours ce sentiment de se dire, est-ce qu'on fait bien les choses quand on est père? Est-ce qu'on a raison, ou parents en tout cas, est-ce qu'on a raison de se séparer? Est-ce qu'on pense qu'à notre pomme? Est-ce qu'on pense aux enfants? Il y avait des générations entières qui restaient ensemble, qui se forçaient à rester ensemble parce que ça ne se faisait pas de divorcer.
Mais qui faisaient porter poids aussi aux enfants.
Et on fait ça pour les enfants. Ouais. C'est pour toi que j'ai sacrifié ma vie, je suis
resté
là.
Voilà.
Qui est affreux. Ouais.
Voilà. Et là, au milieu de ça, est-ce qu'on devient un jour adulte? Est-ce qu'on n'est pas des ados qui jouons un peu
Mais je crois que les enfants nous ramènent à nos responsabilités. En tout cas, j'espère qu'à un moment, on devient adulte.
Oui, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité aussi du parent, en disant, est-ce que j'agis bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai eu raison de prodiguer tel ou tel conseil, de me comporter de telle ou telle manière, d'organiser la garde partagée, puisque la question se pose, va-t-il vivre avec sa mère? Va-t-il vivre avec son père? Y compris quand il rencontre des médecins, est-ce que j'ai raison? Et les parents se sentent avec ce poids de culpabilité de la décision d'une vie. Puisqu'on ne peut pas laisser un ado décider tout seul, mais...
Il s'est retrouvé, j'ai l'impression, que tu...
Non, mais on ne sort pas de la même manière qu'on est rentré, de la pièce.
Ah, d'accord, ça nourrit.
Ça nourrit.
Et ça nourrit, génial.
C'est au théâtre, je ne sais pas si on l'a dit, au très beau théâtre de la Comédie des Champs-Élysées, cette pièce qui s'appelle Le Fils avec Yvan Attal, Tom Villa. J'espère que vous avez bien compris, parce que j'ai bien expliqué ce qui se passe.
Mais là, je pense
On fait un petit coup le pitch quand même. Voilà, le fils adolescent va pas bien, entre autres, parce que ses parents se séparent. Moi, j'ai pas eu cette chance. Mon enfance a été marquée par une normalité, une bienveillance. Mes parents sont toujours ensemble. Pire que ça, ils s'aiment encore. Putain, les ringards. C'est là où c'est dégueulasse, contrairement aux enfants divorcés. Moi, j'avais qu'un seul anniversaire, qu'un seul Noël, qu'une seule chambre. Non, faut pas croire, c'était vraiment la galère. Le samedi midi, des fois en primaire, ils venaient me chercher à deux. À l'école, main dans la main.
Honte.
J'étais obligé de faire croire que j'avais perdu mon manteau pour sortir le dernier, pour pas que mes potes voient que mes parents sont encore ensemble. Non, ça aussi, c'est un traumatisme et on n'en parle pas, tu vois.
Tout a commencé à l'âge de 3 mois. Je ne faisais pas mes nuits, j'hurlais. Mes parents étaient épuisés. Ils auraient pu s'engueuler, mais non. Ils ont préféré prendre soin de l'un de l'autre et se relayer pour aller me voir. Mon père se levait la nuit. Il se levait la nuit. Je crois que vous vous rendez pas bien compte de la chance que vous avez si votre père disait à votre mère « Vas-y, lève-toi, il y a ton gosse qui chiale !» Voilà, quand j'ai grandi, j'ai fait quelques bêtises. Bon, enfin, pas grand-chose. Je me baladais en VTT avec mon Rock Rider 18 vitesses à distribuer des mallettes. Je dealais de la coke avec les Colombiens de mon quartier. Je brûlais des Ford Mustang, mais mes parents sont toujours tombés d'accord entre eux sur les mêmes punitions. Pas une seule mésentente. Et puis je vous passe les « Je t'aime, mon amour » après tout ce temps, comme au premier jour. Non, c'est bien ça. Chez moi, ça puait l'amour de son prochain et de la bienveillance. On serait cru à la messe avec les hosties remplacées par des tartines de Nutella. Vraiment, c'était dégueulasse. Je veux dire, quand j'invitais des potes à la maison, je faisais en sorte que mes deux parents soient pas là pour éviter de leur dire qu'ils étaient encore mariés. Mon père, écoute, j'ai plus trop de nouvelles depuis qu'il est parti avec sa secrétaire. En fait, il était chez Auchan en train de faire des courses. Pire, des fois, il faisait exprès de rentrer plus tôt du travail pour faire une surprise à ma mère. Et moi, j'étais avec un pote en train de jouer à la console. Je faisais croire qu'il était en dépression, qu'il la masquait par un excès de bonne humeur et qu'il passait simplement chercher des affaires, les fleurs qu'il lui ramène, pour essayer de se faire pardonner, tu comprends. Et puis, c'est vraiment nul d'avoir ses deux parents encore mariés. T'imagines même pas les incidents sur ta vie d'enfant. J'ai même pas de belle-mère sur qui fantasmer à l'adolescence. Ou l'inverse, pas de belle-mère sur qui passer ses nerfs. Quand je gueulais sur ma vraie mère, elle m'en retournait une. Et elle avait le droit. Alors que j'en appelle à tous les parents qui se demandent comment rendre son enfant heureux, divorcer. Oubliez les PlayStation, les câlins, les t'es le plus beau de la terre, divorcez et vous rendrez votre enfant heureux. Le bonheur d'un enfant, c'est simple comme une audience chez le juge des affaires familiales. On est en 2018, les enfants cabossés par l'existence avec des parents divorcés, ça donne des pièces de théâtre extraordinaires comme celle de Florian Zeller. Puis jusqu'à preuve du contraire, les enfants qui vont bien, ça intéresse pas grand monde. Super Nanny, elle vient pas quand les gamins ils disent oui et ils se couchent à 20h. Non mais c'est vrai, il lui faut des rebelles qui insultent sa mère et qui crachent au visage de son beau-père. Voilà, donc pour qu'un gamin en vienne là, il lui faut des parents défaillants. Là-dessus, dans la pièce, Yvan, je crois que vous avez été très bien. Bonne émission.
Merci, Camilla.
France Inter, la bande originale, le best-of. Avec Nagui.
Je reviens sur la mise en scène de Larissa Chola qui met bien en valeur le texte et la fluidité de Florian Zeller. C'est un jeu presque de chorégraphie aussi que vous devez avoir. Je pense, on va pas tout raconter, on va laisser le public le découvrir. Mais il y a des jeux d'apparition, de disparition où
c'est raconter aussi le temps qui passe.
C'est millimétré quoi.
Ouais, c'est vrai que d'ailleurs pour nous c'est une chose. On finit une scène, on doit être pile au rendez-vous derrière un panneau qui bouge, c'est etc. Ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que vu de la salle, ça raconte beaucoup de choses avec beaucoup de poésie. Aussi, le temps qui passe, on passe d'une scène à une autre, on comprend par ce jeu d'apparition et de disparition que une semaine ou un mois est passé, etc. C'est très habile et je pense très joliment fait.
Très fluide.
J'ai pas la chance de pouvoir le regarder.
Ah, mais je te dis, hein, c'est très bien.
D'où
fait.
Vous êtes, mais non. J'ai l'impression que ça marche assez bien.
C'est formidable. Et
je peux me permettre, je viens d'avoir un SMS de ma maman, je vous jure que c'est vrai. Est-ce que vous voulez m'adopter, Nagui? Parce que j'ai un père d'une famille. Tout
et présente tes excuses maintenant.
J'adore.
Mais je t'aime.
Mais voilà. Voilà.
Elle dit, pas moi, mais toi, je t'aime.
Elle dit, je t'emmerde. En tout cas, non, mais c'est, la fluidité dans cette pièce aide à partir, justement, et aide à réfléchir. Voilà. Et puis, encore une fois, le texte de Florian Zeller n'est pas que pesant, culpabilisant, et du point de vue soit de l'ado, d'ailleurs, soit des parents, mais il y a cet humour. Je ne sais même pas comment vous le qualifieriez, cet humour. C'est de l'humour noir, c'est un humour exutoire.
Oui, c'est un humour exutoire. Mais en même temps, dans la vie, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours des moments où on rit, toujours des moments absurdes, toujours des moments où on craque aussi par nervosité. Donc, il joue avec tout ça. Et puis, nous-mêmes, on a été surpris aussi par les réactions du public. C'est ça qui est extraordinaire au théâtre.
Il y avait des rires qui venaient de là où vous attendiez pas.
Oui, et tout d'un coup, on a réalisé que c'était drôle. Mais c'est ça qui est génial au théâtre. C'est qu'il y a des réactions spontanées et c'est pas forcément la même chose tous les soirs. Je sais que c'est un peu un cliché de le dire, mais des fois on s'engage dans une direction et c'est plus ou moins dramatique, donc parfois plus ou moins drôle, mais il y a évidemment quelques moments où on s'attendait bien à ce que les gens rigolent. Oui.
Votre déhanché notamment doit se faire sourire.
Formidable. Alors ça c'est terrible pour moi.
Ah, j'ai pas encore eu la chance de voir, mais
c'est mon cauchemar de la soirée.
Ah, très bien alors.
Où je suis obligé de danser et de me déhancher sur scène.
Ouais.
C'est un moment un peu spécial.
Non, c'est pas un moment. Alors, moi je dirais pas que c'est un moment spécial. Je dirais que c'est une leçon.
C'est une claque.
C'est gênant, quoi. C'est gênant.
C'est une leçon. Alors, tu la prends comme tu veux, la leçon. Soit c'est une leçon de danse, soit c'est une leçon de il ne fallait pas le faire.
Mais ça crée un moment de rire dans la famille, en tout cas, et ça les rassemble.
Exactement. On va faire une captation.
Cette scène est importante.
Non,
il n'y aura pas de captation.
On va y aller.
Non, mais pour le montrer après sur YouTube aux gens.
Mais qu'ils aillent au théâtre. C'est vraiment c'est un très, très bon moment. Vos oreilles ont sifflé, oui. Leïla, quand on vous annonçait la venue dans cette émission d'Yvan Attal.
Oui, et Yvan Attal, quand je pense à vous, je pense à l'acteur, au réalisateur, mais aussi, eh bien, ça tombe bien, à l'acteur de théâtre qui est assez rare. Et c'était il y a quelques années, vous jouiez dans Race, c'était en 2012, à la Comédie des Champs-Élysées.
Au final, ils acquitteront peut-être le client.
Parce qu'il est innocent ?
Non, parce que le cabot qui le représente, en l'occurrence moi, aura fait un meilleur show.
Les blancs penseraient que l'innocenté serait faire preuve de racisme. Et pour les noirs, un tel jugement serait une trahison.
Je suis la victime.
Je pense qu'il est coupable.
D'une accusation mensongère.
Vous êtes innocent.
Les hommes blancs ont traditionnellement abusé des femmes noires.
Elle a laissé sa couleur prendre le pas sur son intelligence.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer, putain ?
Voilà, Race de David Mamet, c'était en 2012, ça faisait à l'époque 24 ans que vous n'étiez pas monté sur les planches.
Oui, enfin, c'était la première fois, c'était ma première expérience au théâtre professionnellement, parce que j'avais joué dans le cadre du cours de théâtre, mais professionnellement, Race, c'était ma vraie première fois au théâtre.
Alors comment... Quel est votre rapport au théâtre ? Parce qu'on se dit, première pièce en 2012, vous avez une grande carrière. Qu'est-ce qui fait que vous avez retardé ce moment-là ?
Mais c'est le texte, en fait. C'est que l'envie qu'on a de jouer un texte. Au cinéma, les choses sont un peu plus légères quand même. Ça dure quelques semaines de tournage. Au théâtre, on va dire tous les soirs, pendant des mois, le même texte.
D'accord,
il faut que vous en ayez envie, quand même.
Mais il n'y avait pas de texte avant qui a pu susciter cette envie.
Non, parce qu'on m'a... Oui, vraiment.
Solardon, ça ne vous a pas choqué. Quoi, c'est pas...
Et même un classique, même de reprendre...
Oui, mais on m'a proposé des choses où d'abord, je pense que c'était peut-être prématuré pour moi. Aussi, j'étais dans un élan de cinéma. Je venais de commencer au cinéma avec Un monde sans pitié. Ouais. J'avais la chance d'enchaîner les films, etc. Et puis, les propositions de théâtre me branchaient pas vraiment. Et puis, un jour, Race de Mamet est arrivé. J'adorais cette pièce et ce rôle. Donc, j'y suis allé avec plaisir. Et là... J'ai découvert réellement le plaisir du théâtre. C'est incomparable avec le cinéma. Vraiment, moi, je m'amuse beaucoup plus à jouer au théâtre qu'au cinéma. Simplement parce qu'au cinéma, c'est très, très court. J'adore le cinéma, évidemment, mais au théâtre, il y a quelque chose d'abord, le public, l'adrénaline, évidemment, tout le monde a entendu parler de ça, mais c'est un long plan. Si on s'engage bien, si on s'engage mal, tant pis, on peut pas couper. Il y a un truc vraiment, un engagement de tous les soirs qui est incomparable. Et puis, ça vous obsède, et puis vous vous dites que si on a mal joué un rôle, on a encore un mois pour le travailler, encore un mois et demi. Nagui est venu avant-hier, je suis sûr que dans un mois, je serai encore meilleur, quoi. Donc,
il faut revenir.
Il faut revenir. Non, mais il y a un vrai.
Non, mais il y a souvent une évolution qui est faite. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé et où, je suis d'accord avec Leïla, je me suis dit mais je m'étais pas rendu compte à quel point vous étiez un bon acteur de théâtre.
Ben merci.
Bon acteur au cinéma, il n'y avait pas de débat. Malheureusement, on a des surprises, Leïla et moi, quand on va au théâtre, quand on voit des bons comédiens ou des bonnes comédiennes de cinéma, de voir que ce n'est pas le cas au théâtre.
Et on les reçoit la semaine prochaine.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Juliette Armanet avec l'amour. Bonjour Juliette.
Sur la plage, je me lâche au mélo. Je traque les nuages, solo dans ma veste. Ça a dommage, et te c'est tellement chouette. Tu mets des cigarettes sur la plage, solo dans le bateau. Je mets les voiles et solo je prends l'eau des matelots. Où es-tu mon alter, où es-tu mon ego? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Plus traverser. traversé le désert, l'amour en solitaire. Solo sur mon île, sur ma plage, je me tiens plus qu'à un fil. Je ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules. En miroir, où es-tu mon alter, où es-tu mon ego? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon alter, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Plus traverser le désert, l'amour en solitaire. Solo, je danse le slow sur ta plage. Je m'enroule dans les flots. Solo, je fais naufrage. Mais dans le fond, je m'en fous. C'est pas grave. Sans toi, je devenais.
Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
La raison d'aimer avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot. On en parle évidemment jusqu'à midi et demi dans cette bande originale. Voici d'abord l'humeur de Guillermo.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Alors vous me connaissez, je suis un garçon simple. C'est vrai, pour ma Noël j'ai reçu du riz. C'est vrai, c'est des trucs sans prétention. J'aime bien le bruit de l'urine quand elle heurte le fond d'une cuvette. Je demande pas la mère, c'est vrai. Mais là, j'ai un nouvel objectif dans la vie, les amis.
Ouais.
Quoi, réussir une chronique correcte? Mais tu es complètement inconscient, Ernesto. Fixe-toi des paliers que tu peux atteindre. Commence par engager un auteur, ou mieux, un orthophoniste. Non, non, pas du tout, bande de ville taquin. Mon nouvel objectif dans la vie, figurez-vous, c'est d'écrire un statut Facebook bien racoleur, style « Les politiciens sont tus des menteurs dans leur tour d'ivoire où ils nous volent en sus de leur comportement sodomite constant. » Et là, attendre les commentaires genre « Tellement vrai! Enfin un humoriste engagé qui ose dire les choses !» Et puis complètement modifier mon statut Facebook. Et écrire « L'État islamique est la solution à tous nos problèmes. » Avec les commentaires « Tellement vrai !» en dessous. Juste pour déstabiliser deux secondes les gens dans leur certitude. Parce que j'en peux plus des certitudes, ça me donne envie de crever dans une niche de chien. Franchement, je me sens tout nul quand je vais sur les réseaux sociaux. J'ai jamais d'avis tranché sur rien et les gens ils ont des avis tranchés sur tout. Comment ils font pour avoir autant d'expertise et moi zéro? Alors qu'on me comprend bien, je sais que j'ai régressé intellectuellement depuis que je suis dans cette émission. Forcément c'est pas en parlant bagnole et viande crue avec Leïla toutes les semaines que je vais rentrer à l'Académie française, ça c'est clair. Sans compter les ravages des soi-disant vitamines en poudre que Nagui m'oblige à prendre dans son bureau. Et je critique pas un patron, vos prix c'est les prix du marché. Voilà, en plus j'ai pas besoin d'attendre 2 heures à dealer, etc. Je crache pas dans la soupe. Mais bon, là le monde est devenu trop intelligent pour moi. Les gens ils ont des opinions définitives sur des tas de sujets immensément complexes. Alors que moi, c'est rare les fois où je suis sûr. Vraiment, il y a des trucs, voilà, genre les nazis, par exemple. Là, je suis formel, quoi. Blablabla, les progrès dans les moteurs automobiles, etc., tout ce que tu veux. Mais moi, les nazis, je trouve que c'était pas ouf, quoi. Vraiment, 100%, j'ai un avis tranché.
Ouais,
je trouve que c'était pas ouf, les nazis.
C'est risqué.
C'est vrai, il y a deux, trois autres trucs comme ça où ma religion, elle est pas faite. Genre, le mélange pluie et vent à Paris, j'aime pas. Je suis sûr, je suis contre. Les moustiques séropositifs, j'aime pas. Je suis contre. L'hygiène, et encore l'hygiène de Daniel Morin. Et encore, qui dit qu'un jour Daniel va pas se dire fuck le quand dira-t-on, qui t'a choqué aujourd'hui, voilà, je me lave, ça peut arriver à Daniel. Non mais c'est vrai, genre il y a une promo magique sur le pousse-mousse chez Intermarché, l'accident bête. C'est vrai, Daniel se rue dessus, bim boum, qui une douche, qui un bain, ça peut arriver. Eh ben, du coup, les cartes de l'organisation sanitaire personnelle de mon collègue seraient redistribuées. Il faudrait remodeler ma pensée et me forger une autre opinion. Why not? Mais on dirait, il n'y a plus de place pour l'incertitude aujourd'hui. Genre hier, j'écoutais l'interview politique de Jean-Michel Apathy avec le chef des Républicains à l'Assemblée. Et Apathy, il lui demande, est-ce que vous réclamez la démission de Gérald Darmanin?
Très belle imitation.
Ouais, c'est mes deux points forts dans la live. L'élocution et les accents. C'est mes deux points forts. En tant que belge, Cécile Apathy, c'est le max. J'apprends des tas de trucs sur la politique française, mais j'ai quand même l'impression d'écouter Patrick Bosseau. Ça déchire, franchement, c'est vrai. C'est vrai. Et je sais que ça sonne pas exactement pareil, mais pendant 40 ans, vous avez écrit en Belgique, on parlait tous comme ça. Une fois, donc, ne froissez pas les couilles avec vos nuances d'accent. Bref, Apathy, il le chauffait sur Darmanin, mais le mec des Républicains, il n'arrêtait pas de lui répondre. Gérald Darmanin doit prendre sa décision en âme et conscience avec le président de la République. Et Apathy, il le lâchait pas, il lui faisait, mais vous ne répondez pas à la question, quelle est votre votre position quand elle démissionnait. Si je prends pas un César pour mon imitation de Patti, c'est un scandale.
Mais il est pas chinois, Jean-Michel Apathy, sur lui.
Ah oui, c'est vrai.
Puis
il est chinois.
Pas la molaire.
Doit-il démissionner ou pas? Bref, c'était interminable. C'était interminable. J'aurais tellement voulu que le mec de Républicain lui fasse, mec, je vais te dire la vérité. En fait, j'en sais rien. Je crois d'avis, je sais pas, il y a du pour et du contre. C'est complexe comme dos, tu vois. Tu sais s'il est coupable, toi? Bah, j'en sais rien, moi. Viens à la cantoche, on discute, on boit un lait, tu vois. Fais un truc, c'est vrai. Il y a trop de certitudes aujourd'hui. On boit du lait, c'est vrai. Mais en ce moment, tout ce que je sais sur plein de trucs, c'est que je sais rien sur plein de trucs. Allez, sur ce, je vais voir un orthophoniste. Allez, bonne émission.
Merci, Kawagis.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Aimer à perdre la raison et l'amour se déchirent au Théâtre des Nouveautés avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot. Et justement, nous parlerons, est-ce que forcément on perd la raison quand on aime? On parlera de ça avec Cécile Guéret, qui est journaliste à psychologie et comme chef de rubrique thérapie et auteur d'un blog, La Psy Buissonnière. Mais d'abord, en musique, les vies et comment la musique vous accompagne dans vos vies. D'ailleurs, en 1978, vous écoutiez Gérard Jugnot. Donc vous l'écoutiez vraiment
ou
vous avez fait l'opportunisme de la BO du film?
L'opportunisme. J'écoutais, oui, j'ai toujours écouté Gainsbourg, ouais.
Et je me rappelle plus, la chanson existait déjà ou...
Oui. On l'a collé sur le film, mais ça n'a pas été composé pour le film.
On est en 78, vous êtes à l'affiche dans Les Bronzés, c'est votre premier film. C'est adapté en fait d'une pièce de théâtre, Amour, coquillage et crustacé, Patrice Lecomte à la réalisation, et c'est le début de l'aventure pour toute la troupe d'aventure.
Tu veux pas aller avec Guillermo, même orthophoniste?
Là, c'est notre premier film
en groupe.
Enfin, on avait tournoté un peu des trucs, mais c'est vrai que ça a été un grand marchepied pour la troupe.
Vous aviez eu un rôle au cinéma avant?
Plein.
Avant Les Bronzés?
Ah oui, j'avais fait, je sais pas, au moins 25 ou 30 apparitions Alors des fois une journée, deux phrases, deux fois huit jours.
Mais ça allait de
film. On avait même fait un film, je crois que j'avais fait Les Héros n'ont pas froid aux oreilles, que j'avais écrit avec Charles Némès, avec Auteuil, je crois.
Et si on se projette à cette époque-là, comment vous vivez la sortie du film? Vous êtes dans quel état avec
Totalement inconscient. On ne s'est pas bien rendu compte du truc. On était contents, on était heureux, on avait passé deux mois... On avait joué la pièce pendant un an et demi, on avait été en Côte d'Ivoire, c'était un tournage assez épatant, mais on se rendait pas bien compte, parce qu'on était pour nous c'était pas du cinéma, quoi, c'était du plaisir, et puis le film avait bien marché, on était très heureux, mais enfin c'était pas du tout, on n'était pas dans une démarche de carrière, enfin on était heureux, quoi.
C'est une démarche de pote,
c'était un rêve qui se réalisait, ouais. C'était assez épatant.
Et des vrais copains qui avaient grandi ensemble, qui avaient travaillé ensemble, qui étaient...
Le tournage, c'était l'Afrique, hein, c'était Côte d'Ivoire, c'était assez rigolo, parce que on était perdus, on était dans un ancien club de vacances qu'on avait retransformé, donc on habitait dans le décor, et de temps en temps, je me souviens quand même qu'on pouvait pas faire de ski nautique tout le temps parce qu'il fallait tourner. Parce qu'il y avait une lagune très plein de caïmans d'ailleurs. C'est des souvenirs comme ça que j'avais, moi.
Est-ce que vous continuez de parler d'amitié dans cette troupe entre Thierry Lhermitte,
Thierry sur Clavier? Thierry, je viens le voir avant-hier. Donc on se voit, on se voit beaucoup.
C'est l'amitié d'une vie, quoi.
Oui, vraiment. C'est l'amitié d'une vie. C'est-à-dire qu'on reprend l'amitié là où on l'a laissé 6 mois ou un an ou 3 jours avant.
Mais c'est vrai qu'on sent une amitié parce que lorsque Christian Clavier était venu à ce micro, il nous avait...
On avait 13 ans avec Gérard. Lui s'est étranglé au fond de la classe avec une cravate. À l'époque, on faisait des cravates quand on allait à l'école. Gérard était très mal habillé, comme il l'est toujours. C'était tout à fait bien.
C'est sa patte. Oui.
Et vous avez traversé ensemble mai 68, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait pendant mai 68
Nous avons dirigé une commission poésie au lycée Pasteur, et on a énormément défilé du côté du lycée de filles, qui était à Saint-James, donc on a énormément ri.
Oui. Clavier, c'est le gros monsieur.
Oui, tout à fait. C'est pas le grand, c'est l'autre.
Et comment arrive Patrice Lecomte? Parce que quand on a une troupe comme ça aussi solide, avec un humour, j'imagine que les blagues un peu perso que l'extérieur ne peut pas comprendre, comment un tiers arrive dans cet univers?
C'est compliqué parce que comme on était six auteurs, donc il fallait qu'il soit un septième.
Il faut que la greffe
faire un peu juge de paix pour pouvoir dire ça.
Il faut que la greffe prenne surtout.
C'était compliqué. Et puis Patrice, il venait de faire un film qui n'avait pas du tout marché, où c'était même fait virer du tournage par Coluche et Rochefort. Et donc, il nous avait proposé un scénario à tous qui était assez drôle, enfin, un sens du burlesque. On s'est dit, tiens, prenons quelqu'un qui soit comme nous, qui débute, pour pas avoir un vieux monsieur qui nous aurait castré ou qui nous aurait, en tout cas, qui aurait fait ce métier comme il le faisait depuis longtemps. Donc, c'était important aussi d'avoir cette espèce de nouveauté. Et Patrice correspondait à ça, quoi.
Quant à vous, Isabelle, vous écoutiez Charles Aznavour.
Depuis 10 ans, comme le temps passe, je fais la salle et la terrasse. Chez Marie-Louise, que tu connais, la petite roue qui nous teint de l'air.
Quand vous écoutez une chanson, ce sont d'abord les textes, la plume qui vous attire, plus que la mélodie.
La mélodie, je m'en fous un peu. Moi, je suis pas très. Oui, c'est que le texte. Et cette chanson me faisait pleurer parce que. J'ai commencé secrétaire pour gagner ma vie. J'ai tourné, j'ai été actrice, mais je voulais pas vraiment être actrice, mais ça gagnait bien, donc je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse. Et après j'ai commencé à écrire, mais j'étais paumée. Parce que mon rêve aurait été d'épouser un homme très riche et d'être au bord d'une piscine, voilà. Donc, j'avais aucune ambition, j'en ai pas plus maintenant. Et c'est la salle et la terrasse parce que j'ai aussi été serveuse. Mais je sais tout tomber, tu connais ma maladresse. Et cette chanson est magnifique. Magnifique sur le temps qui passe. Si vous avez elle est pas très connue, cette chanson d'Aznavour. Elle est extraordinaire.
Mais c'est chaque fois un scénario de film, les chansons d'Aznavour.
Et c'est pour ça que j'aime Piaf, Aznavour, Barbara.
Il raconte des histoires.
Oui,
Benabar aussi raconte.
Mais scénariste aussi. Moïno Benabar, il a commencé en écrivant des scénars. Mais c'est vrai que Aznavour, quand il est sur scène, raconte ses chansons plus qu'il ne les chante. C'est là où on se rend bien compte que l'interprète qu'il est. Et à ce moment-là, dans ces années-là.
C'est votre première apparition au cinéma, Isabelle, dans La Dérobade de Daniel Duval, et vous l'avez expliqué, vous étiez dactylo, comédienne, c'était un petit job en plus, en gros.
Oui, c'était un accident, vraiment. J'étais dans un cours, mais je pourrais l'accompagner. Enfin, c'est une copine, c'est que moi je suis une suiveuse, et je me suis retrouvée toujours meneuse. Je comprends pas, alors que j'ai pas l'âme de ça. Et puis j'étais bien gaulée et tout. Puis Daniel Duval flash sur moi parce que j'avais mon défaut de prononciation et tout. Et ça l'amusait de faire une prostituée avec... j'ai été à poil tout de suite. Et sans beaucoup de textes. Et après, on m'a embauchée pour faire le rôle d'une bonne sœur.
C'est ça.
Là, j'appelle ma mère, je dis « Maman, grand écart, quoi. Prostituée, bonne sœur. Allô ?» Alors là, ça y est, Adjani, quoi. Je devais dire « Bourreau, coupe ses cheveux que je monte à l'échafaud. » Et je l'ai jamais dit, j'étais encore sur la charrette muette et j'ai été me faire couper la tête.
Et qu'est-ce que vous avez fait avec votre premier cachet ?
Oh, j'ai acheté des draps en soie.
Des draps en soie ?
Ouais.
Ça glisse ?
Non, c'est parce que c'était l'expression « péter dans la soie ». Oui, ça glisse. Mais bon, ça glisse, mais ça n'a pas glissé longtemps. Parce que j'ai pas dit à ma mère, parce que j'avais un petit appartement, mais je faisais mes tournées de linge chez ma mère. C'est passionnant, ma vie, il fallait pas me lancer. Hein. Ouais. Donc j'ai ramené ma soie.
Je sens le programme soie qui n'a pas été respecté dans la machine.
Parce que j'ai pas osé dire à ma mère que mon premier... Parce que ça avait coûté un bras.
Elle n'aurait pas compris.
Elle n'aurait pas compris.
De mettre autant d'argent dans un...
Et t'as eu des mouchoirs, là.
Absolument.
T'as eu des mouchoirs de
soie. Et donc voilà, j'ai dormi un peu dedans. Mais pas longtemps.
T'as pas pété longtemps. Hein.
En 87-88, Gérard Jugnot, vous écoutiez Richard Cosciante.
Oh là là.
Alors ça. Il nous a sorti toutes les BO de ses films.
Bah oui.
Ah mais oui, c'est en BM.
Bah oui.
Ouais.
'87 et c'est tandem en effet, et on vous demande de faire quelque chose d'assez incroyable pour vous, c'est de vous couper la moustache. Oui, Patrice Lecomte.
Un truc de fou.
Mais oui, truc de fou parce
c'est énorme.
Non mais ça pose un problème d'identité, j'imagine.
Oui, parce que j'avais toujours refusé de me couper la moustache, je sais pas pourquoi, je m'étais caché derrière cette... Et quand je réfléchis, je trouve ça idiot. Mais et puis je me suis mis une perruque. C'est Patrice voulait pour un rôle d'un peu différent remettre un peu comme ça le compteur à zéro, donc je me suis mis une perruque et j'ai coupé la moustache. Ce qui fait d'ailleurs que ma mère, quand elle a vu le film, elle dit « C'est marrant, tu as changé de coiffure. » J'ai dit « Maman, je suis chauve. Ah oui, c'est vrai. »
C'est vrai, c'est beau. Et c'est vrai qu'enfant, déjà, vous mettiez la moustache?
Oui, je l'ai mis assez vite. En fait, au départ, je l'ai mise parce que quand j'étais...
Vous avez laissé pousser la moustache rapidement ou vous mettiez une fausse moustache?
J'avais une fausse moustache pour jouer des petites couillonnades dans les distributions de prix. Mais la vraie moustache, je l'ai laissé pousser quand j'ai fait mon service militaire parce que j'étais dans le contre-espionnage. Et j'étais chauffeur militaire. J'ai pas le droit de le dire normalement. Enfin, maintenant, il y a prescription. Et j'étais en civil et je me suis dit, tiens, je vais mettre une moustache pour pas qu'on me reconnaisse jamais. Je suis fiché dans les services secrets étrangers. Et puis je l'ai gardé.
C'est pas vrai.
C'est vrai. Et je l'ai gardé, c'est puis génial. Comme ça m'a fait travailler plus vite, puisque j'avais 20 piges, mais j'en faisais 35, 40. Et d'ailleurs, on a toujours joué des personnages plus âgés que nous, même dans les bronzés. Nos personnages sont beaucoup plus matures que l'âge qu'on avait. Et donc voilà, j'ai gardé ça longtemps. Et même quand on a fait le Père Noël, il voulait absolument que je fasse le travesti, Katia, et j'ai pas voulu le faire pour me couper la moustache.
Qui a été utile aussi dans Papy fait la résistance.
Absolument.
Il vaut mieux dans cette période.
Et ça vous va bien, la moustache.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai.
Isabelle Mergo, dans les à fin des années 80, vous écoutiez André Claveau.
Domino. Domino.
Moi, je suis rock'n'roll.
Elle ouvre à quelle heure la guinguette?
Le soleil s'est fait beau.
André Claveau.
J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de.
Voilà, c'est la mélodie. C'est la mélodie, vous pouvez pas me dire que c'est le texte qui
vous
bouleverse. Ah, c'est la mélodie. C'est Playboy.
J'ai envie d'être aimé.
C'est gentil comme voix, je sais pas.
On est en 88 et vous recevez un coup de fil de la secrétaire de Philippe Bouvard.
Oui, qui me dit « Philippe veut vous essayer ». Les textos, hein.
C'est tout lui,
c'était le matin.
Claire. Je sais non,
Claire,
c'est
Claire,
pas...
c'était Claire, l'assistante.
Son assistante.
Ouais, absolument.
Et vous allez à RTL, pour les grosses têtes, c'est pour les grosses têtes qu'il veut vous essayer.
Et il y a, oui, et là, il y a Kersauzon, Martin, qui c'est qui a... Il y a
Jean-Yann, il y a Jean Dutour.
Non,
et
pas
Junior,
du tout encore. Le premier jour.
Non, pas le premier jour.
Non.
Mais moi, j'étais déjà.
Et là, je. Wow.
87, 88.
Et vous arrivez, je crois que vous arrivez particulièrement.
En forme.
En forme.
Oui, parce qu'il est.
Petite préparation avant d'aller au gros stade.
C'est-à-dire, je prends deux kirs. Non, mais c'était l'après-midi. Hein.
C'était pas. Non, c'est pas en direct, c'est enregistré. C'est toujours enregistré, mais c'est enregistré.
C'était l'après-midi.
C'était enregistré l'après-midi. Oui.
Voilà. Alors que là, c'est enregistré le matin. Et donc, je suis bien en forme. Et je. Et puis, bah, voilà.
Mais quoi, torché?
J'allais faire marrer et tout. Et puis c'est...
Pompette.
En forme, en 2 kilos.
Oui.
Libre. Bah, ça dépend ce qu'on
fait. Un peu désinhibé.
2 litres de kir.
2 litres de kir. 1 ou 2 kir.
Et comment se fait accepter dans une bande comme ça? Vous
avez cité plein de mal. Je ne les ai pas en placer une. J'étais toute jeune, toute mignonne, toute. Toi, avec une jupe aura du bonheur, comme ça, des décolletés jusque-là, et je racontais plein de conneries, ben voilà, il en fallait pas plus pour être accepté.
C'était pas facile, hein, d'être accepté par Bouvard.
C'est pas le plus tendre avec les femmes, déjà, à la base. Ouais. Mais c'est pas évident, non. Il peut être très, très dur, voire méprisant. En 91, Gérard Jugnot, vous écoutiez, est-ce que c'est encore une bande originale de film?
Tôt ou tard, ça n'allait.
Oui. Oui. C'est une époque formidable.
Avec le regretté Tiki Olgado dans ce film aussi.
Et à vos côtés, Richard Boringer aussi, qui apparemment est un bon soupolet sur un tournage, c'est ça?
Oui, il gueule un peu, comme il y a les gens qui crachent le matin, lui, il faut qu'il gueule. Enfin, à l'époque, maintenant il s'est calmé, mais c'était énorme, il était formidable dans le film. Mais cette chanson, qui est très belle, j'avais demandé à Francis, que j'ai rencontré avant. Et je lui dis, Benjamin, que tu fasses la musique du film. Alors, c'est une grosse feignasse, hein. C'est un talentueux absolu, mais, et donc, il a écrit cette chanson, il a écrit juste un couplet ou un couplet et demi, et 4 ans après, il a fini la chanson pour le disque. Et que ça, comme la musique du générique, il en a fait une très très belle chanson par la suite, et il a repris le thème. Parce que, c'était son deal. Il dit, moi, je veux pas qu'on fasse de disque avec, je te fais des petites musiques comme ça, et puis après, ça m'appartient, je ferai ce que
c'est je veux. C'est un nonchalant, c'est pas une fainéasse. Il va à son rythme.
Il met 5 ans pour faire un très beau disque. Mais, enfin,
qu'il annonce toujours comme étant le dernier, j'en ferai plus.
Mais ça, j'adore. Parce que c'est un type extrêmement drôle, le Francis.
Il est pince sans rire.
Ouais. Ouais, il est très drôle.
Il a l'œil brillant. Et,
Et ce qui est très touchant au sujet d'une époque formidable que vous avez réalisée, c'est que votre co-scénariste explique comment l'idée vous est venue de ce film.
Oui, c'est assez drôle. C'est Philippe Lopez-Curval qui a écrit avec moi ce film. Il était venu me proposer un scénario qui m'intéressait pas. Et puis, sur le pas de la porte, j'ai dit, mais il y a un truc qui me préoccupe. Il y a un mec en bas, qui est vraiment assez clean, mais qui met pour vivre, pour manger, pour rester propre. Et ça m'avait marqué. C'était dans les années 89, je crois. Et du coup, sur le pas de la porte, on a commencé à bâtir une histoire, à raconter. On est resté presque une heure sur le pas de la porte. Et
grâce au SDF qui était en bas de chez vous.
Oui, enfin, c'est assez curieux d'ailleurs.
Vous avez reversé des droits à ce SDF quand même pour qu'il...
Un petit peu, avec mes impôts déjà. Mais c'est vrai que c'est troublant parce que tous ces gens qui font des films ou qui écrivent des chansons sur la pauvreté et qui font fortune grâce à ça.
Ah oui.
C'est vrai que c'est un paradoxe.
Ouais. Oui, c'est un paradoxe.
Oui, ça pose question. En tout cas, vous, ça vous pose question. C'est pas le
cas de
tout le monde.
Moi, l'époque formidable, c'est un truc sur les sans logis, hein, sur les SDF, et j'ai pu m'acheter une belle maison.
Oh là là. Ouais, c'est vrai.
C'est atroce. Hein.
C'est la limite de la vanne.
Oui, attendez, Renaud, il a chanté la misère, et il a fait fortune avec ça.
Et en même temps, ça va plus loin, parce que ce personnage de SDF, Berthier, en fait, votre co-scénariste, explique que vous étiez à un moment aussi de votre vie où vous vous sentiez très fragile. C'est-à-dire que, en se disant que la vie tient à rien et que je pourrais demain me retrouver à la rue.
Oui, c'est sûr. Non, puis c'est aussi, ce n'est pas que un film social, misère, c'est un film sur un type qui perd l'envie de vivre, quoi, la force vitale. Et ça m'arrive fréquemment, quoi. Et donc, j'ai besoin de descendre en bas pour remonter.
Mm-hmm. Là, vous êtes envahi comme ça par des doutes, par moments.
Oui, par so what, le so what. Je pense que tout le monde a ses doutes. Et c'est vrai que de temps en temps, moi, j'ai besoin de pièces comme... ce que je joue tous les soirs, d'expulser toutes ces inquiétudes.
Et puis nouveaux rêves,
de faire rire.
Vous êtes toujours inquiet aujourd'hui ?
Pas inquiet.
Que la vie tourne mal ou que...
Non, là maintenant elle va... Non mais ça se termine mal toujours la vie, donc on est toujours...
Déjà ça se termine.
Ça se termine en tout cas, voilà.
Il n'y a pas de happy end, c'est pour ça que j'aime le cinéma, parce qu'il y a des happy end. Dans la vie, il n'y en a pas.
Et là, 11h48, vous vous sentez comment là ?
Très bien.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Vous êtes bien dans la bande originale sur Inter, voici Hills avec Today is the Day.
Starts right.
C'était Heels avec Today is the Day.
France Inter, la bande originale, le best-of, avec Nagui.
On va parler à nouveau donc de la raison d'aimer cette pièce que vous avez signée, Isabelle, que Gérard met en scène, Isabelle Mergault et Gérard Jugnot au Théâtre des Nouveautés, avec Cécile Guéret. Merci Cécile de venir à ce micro, nous parler de l'amour et de la raison. Quand j'ai repris cette phrase d'Aragon, aimer à perdre la raison, on ne peut pas aimer et être raisonnable.
C'est sûr que l'amour vient toujours nous attraper au-delà du raisonnable. Déjà, ça nous attrape corporellement, physiquement, par nos ressentis, mais aussi par toute la part inconsciente, toutes nos représentations, qui est-ce qu'on est en tant qu'homme, en tant que femme, notre représentation du couple, notre histoire. Et tout ça, c'est au-delà du rationnel, d'une certaine façon.
Mais est-ce qu'on est, quand on aime avec raison, on est déjà vieux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maturité, ou au contraire...
C'est triste.
Ne pas avoir du tout de raison et être totalement aveuglé, puisque l'amour rend aveugle aussi, ça sous-entend tout ça, la même idée, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas quand on aime.
Il y a effectivement dans l'amour quelque chose qui nous attrape dans l'inconnu. C'est-à-dire, l'amour, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. Il y a quelque chose où tout à coup on se jette dans une relation, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas... Il va y avoir la surprise de la découverte de l'autre, qui il est, avec son histoire, ses fragilités, toute sa singularité, qui je suis moi aussi, parce que nous aussi, on se découvre dans la relation à l'autre. Donc il y a aussi la surprise de se découvrir. La surprise de la relation, tout ça, c'est un saut dans l'inconnu. Ça peut faire très peur.
Mais c'est un instinct aussi. On suit son instinct, on ne réfléchit pas. C'est aussi dans ce sens qu'on dit qu'on est aveugle.
Oui,
tout à fait. On court dans les bras de l'autre, sans savoir...
Oui, et pourquoi on présente ça comme en disant on est aveuglé, on ne se rend pas compte, on n'est pas raisonnable. Comme si tout n'était pas bien et que la raison était du bon côté et que l'amour était du mauvais côté.
Oui, il y a cette
Qu'est-ce
idée
que... Qu'est-ce qui prouve que la raison soit du bon côté?
Alors, en effet...
Les emmerdes.
Mais je crois qu'on a raison d'aimer.
Ah, ça c'est joli. C'est
on n'est jamais sûr, en effet.
Ça peut faire un titre de pièce.
Même en étant du côté de la raison, de toute façon, on n'est pas sûr que ça marche. Donc, qu'on soit raisonnable ou qu'on soit pas raisonnable, c'est un inconnu de tomber amoureux. Moi, je crois que là où on se raccroche à la raison, c'est dans notre peur de se jeter dans cet inconnu-là. On a envie de contrôler, en fait, quand même un petit peu la relation. On a envie de contrôler ce saut dans l'inconnu. Alors du coup, on va essayer de se raccrocher à des trucs hyper terre à terre. Souvent, les questionnements au début des relations amoureuses. Moi, je suis gestalt thérapeute et je trouve ça merveilleux, le début des relations amoureuses et la façon dont mes patients peuvent me parler de leurs questionnements. Ça va être des trucs, mais hyper concrets. Est-ce que je peux tomber amoureuse de quelqu'un qui porte des Birkenstock, par exemple? Des trucs vraiment...
On se raccroche, du coup, avec chaussettes, non.
Non, mais tu peux les confisquer, lui acheter une autre paire de pompes, on n'en parle plus.
Mais
alors, des soirées spéciales.
Justement,
on aime aussi les gens pour leurs défauts.
Exactement. Et on les quitte
d'ailleurs pour les mêmes raisons.
Voilà, au début.
C'est la phrase de Jules Renard qui dit « Je ne t'aimerai plus quand ton grain de beauté deviendra une verrue ».
Oui, c'est ça.
C'est terrible.
Ah, ça.
Il savait envoyer des textos. Hein. Franchement, à l'époque, c'était pas un petit smiley avec un bisou.
La drague dermatose.
Est-ce que justement, on dit qu'au début, la raison n'a pas lieu d'être quand on a un coup de foudre, quand on tombe amoureux. Mais est-ce que, à l'inverse, les histoires d'amour qui durent s'appuient sur la raison?
Alors oui et non, en fait, je dirais, parce que quand même dès le départ il y a une folie, mais il y a aussi cette envie de s'accrocher, d'essayer de contrôler, qui est un petit peu une note pas raisonnable. Après, c'est vrai que dans la durée, toute la difficulté, c'est effectivement de pas se faire trop rattraper par la raison, qui serait dans une relation effectivement hyper connue, un peu routinière, un peu...
Oui, c'est l'équilibre entre passion et raison qui
exactement.
Fait que ça fonctionne et que ça dure, non?
Voilà, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui est en même temps fait de déséquilibre permanent, c'est un peu comme quand on marche. C'est-à-dire qu'il y a du déséquilibre et d'équilibre, et je trouve que, à mon sens, c'est ça qui fait que une relation, ça fonctionne bien dans le temps, c'est d'être capable d'être à la fois dans le côté raisonnable, du fait qu'on se connaisse très bien dans le couple au bout d'un certain nombre d'années, et en même temps d'accepter ce que disait Gérard Jugnot à l'instant, qu'en fait, il y a une part d'inconnu dans l'autre, de singularité, que je pourrais... en fait, jamais maîtrisé. Et c'est d'accepter que l'autre puisse toujours me surprendre, comme au premier jour. Alors, sauf qu'on se connaît très bien. Mais l'autre change, moi aussi je change. Et c'est en gardant cette folie-là, en fait, cette part non raisonnable, cet inconnu que je trouve que ça peut marcher.
Pourquoi la raison serait toujours quelque chose de sage, réfléchi, posé, positif, sans aucun défaut? Qu'est-ce qui dit que la raison a raison?
En tout cas, on se dit ça pour se rassurer, je pense. On se dit ça pour se rassurer, pour se dire, bon, bah voilà, là, je contrôle un peu la situation, je sais où je mets les pieds.
Ça peut être chiant, le raisonnable aussi.
Mais ça peut être très ennuyeux, voire même mortifère. C'est-à-dire que, effectivement, il y a, en même temps, la raison, ça nous donne un socle de sécurité. Donc ça, c'est important. Mais si on n'est que dans ce socle de sécurité, on est dans quelque chose de très ennuyeux. Et, et puis on n'a pas du tout accès à la nouveauté.
Puis si on est tous raisonnables, pas d'excès, pas de folie, pas d'éclat de rire en public, parce qu'il faut être raisonnable, il ne faut pas gêner les voisins, on ne peut pas rire fort, on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas être différent.
Et à l'inverse, si on est trop là-dedans, si on est trop dans la folie, ça peut être très insécurisant aussi. Les couples qui, dès le départ, sont dans quelque chose de très passionnel et se lancent à corps perdu, en larguant les amarres sur toute leur vie, ça peut aussi faire très peur et être très insécurisant.
Oui, on parle aussi de l'intelligence du cœur.
Merci Gérard Jugnot. C'était...
voilà. C'est deux heures.
Le meilleur de la bande originale continue avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Albert Algou, Frédéric Sigrist, Tanguy Pastureau et nos invités Léa Drucker et Denis Ménochet. En live, Juliette Armanet, c'est le meilleur de la bande originale. La suite, c'est parti. Qui incarne, qui porte sublimement bien jusqu'à la garde.
Ça fait trop peur, n'y allez pas.
Ça fait peur, oui. Au-delà de tout ce que l'on a pu dire sur l'histoire de ce couple qui se sépare avec ses deux enfants, de la garde sera-t-elle partagée ou pas, un week-end sur deux ou pas, la pension aussi, de quel montant sera la pension et ainsi de suite, de lui qui veut peut-être reconquérir son ex-femme ou son épouse ou son amour de toujours, de savoir si c'est elle qui manipule, de savoir si c'est lui qui est violent, de savoir si les témoignages des enfants sont vrais ou faux, vous serez baladé par un film. C'est ça aussi le cinéma, c'est que ça raconte une histoire, on se sent proche, on se sent concerné, mais c'est un film avec, tout à l'heure, Frédéric Sigrist parlait de la bande-son, du mixage du moins, des sons et des humeurs. Il y a le jeu des acteurs, évidemment.
Et même la mise en scène, en fait.
Elle est formidable.
On dit souvent du bien des films ici, parce qu'on est gentil.
Non, parce que sinon...
Mais pour
sinon,
une fois,
pardon, sinon
il est
on les reçoit
vraiment
pas.
Excellent ce film.
Sinon on les reçoit
vraiment,
pas.
Formidable. Ouais, vraiment, c'est un très très bon film, mais vraiment, vraiment, vraiment.
C'est pas une raison pour avoir peur d'aller le voir non plus.
C'est un bel objet. Alors, j'ai vu dans des interviews que les références de Xavier Legrand étaient entre Kramer contre Kramer et Shining. Mais c'est vrai qu'on est dans le divorce et dans l'horreur, par moment.
Il y a la nuit du chasseur aussi, on peut penser.
Oui,
hein, ah,
oui. Ou imaginez Panic Room aussi pour Jodie Foster.
C'est même un film qui fait comprendre les films d'horreur, parce qu'en illustrant une situation que tout le monde connaît, c'est-à-dire un divorce, tout d'un coup, on se rend compte à quel point, finalement, on est proche du cinéma d'horreur et pourquoi ça parle aux gens. C'est-à-dire que derrière la figure du croque-mitaine, en fait, et ben voilà, il y a cette figure, des fois, d'un membre de la famille qui nous fait peur.
Parce
et on a besoin de faire une catharsis avec ça.
Parce
et
que, c'est vachement intéressant. Comme Usual Suspect, on ne comprend, on a la révélation qu'à la fin du film.
Ouais.
Voilà, Kaiser Soze est révélé dans les dernières minutes. Donc là, c'est pareil. C'est révélé vers la fin. Et on ne sait jamais ce qui va se passer dans les deux secondes après une scène.
Non, c'est sûr. Ouais.
Cette tension-là est super bien jouée. D'ailleurs, pour la jouer, cette tension, est-ce que vous avez tourné dans la chronologie du film pour être dans le caractère des personnages?
On a tourné dans la chronologie d'abord pour Thomas Gioria, pour qui c'était son premier film, pour lui faciliter la tâche, parce qu'il avait une partition extrêmement difficile à jouer, intense émotionnellement et tout ça. Donc, Xavier Legrand voulait et l'équipe voulait que petit à petit, il puisse se familiariser avec tout ça et pour monter progressivement en tension.
C'est extrêmement rare au cinéma de tourner un film dans la chronologie
très, très
de l'histoire.
Mais
le décor le permettait, c'était assez proche.
Qu'on sort éprouvé du film
Quand on joue dedans, oui. On sort éprouvé avec, en même temps, cette
La fête de fin de tournage, elle devait être spéciale quand même.
Non, mais c'était en même temps, on s'est amusé sur le tournage.
La fête de fin de tournage va être amusante.
On s'est amusé aussi sur ce tournage parce qu'on était tellement, on est tellement heureux quand on fait un bon film, quand on sent qu'on est dans quelque chose qui nous est nécessaire et que tout est réuni pour que ce soit bien. Et même si pendant le tournage, on ne sait jamais ce que ça deviendra, mais on sent quand même qu'on est dans quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc ça, c'est une vraie jubilation et une joie. Mais à côté de ça, émotionnellement, oui, on était lessivés en sortant.
Ouais,
on était lessivés.
Ouais, par pareil. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'en sortir. J'ai été chez mes parents en Bretagne pour essayer de
faire un câlin,
de reconnecter avec ma vie. Non, mais avec, tu vois, j'ai des parents super, donc j'avais la chance d'avoir ça. Et mais par contre, nous, on était un peu distants pendant le film, alors qu'on est super potes, etc. Et
on a vraiment... vous avez été amants.
On a été frères et sœurs. On a été amants.
On a tout été. C'est atroce.
Mais en tout cas, c'est atroce.
C'est un autre film.
C'est Dardenne.
Mais pendant le tournage, on avait
une autre famille.
C'est la mienne. Ça rentre un peu dans le ciboulot quand
c'est-à-dire,
même.
C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes. Il y avait une résonance de vos personnages, même quand on disait coupé.
Ouais. Pendant le tournage, on avait une espèce de distance, mais comme un respect aussi du travail de l'autre, mais on n'allait pas se poiler et se raconter des anecdotes.
Non,
on était
pas
vraiment.
Trop, non, pas trop. Non.
Au-delà, encore une fois, d'une histoire qui parle et qui résonne, parce que le traitement fait aux enfants, les problèmes de divorce, être bien dans sa peau, dans sa vie, qui manipule qui. On parle de pervers narcissique, mais ça peut être une perverse aussi narcissique.
Oui, et puis c'est sur aussi le point de vue de l'enfant là-dessus. Ouais, parce que ça, c'est très, très. Quelque chose que j'avais pas vécu au cinéma, c'est de partager ça avec un enfant de 12 ans, avec le regard de Thomas sur notre couple, sur ce qu'on vit. Le spectateur, je crois, est parfois dans le regard de Thomas. Et c'est ça, c'est très, très particulier.
On le suit.
Parce que tout à l'heure, on parlait de tout l'aspect juridique qui est très complexe, etc. Mais le cinéma, c'est du cas par cas. C'est ça qui est beau. C'est que ça nous permet de plonger dans l'humanité de tout ça. Évidemment, il y a des lois, il y a des choses, on tranche la garde partagée, comment ça se situe, etc. Comment on va la construire et tout. Mais après, le cinéma, c'est ça. C'est une fenêtre sur la vie des gens et dans l'intimité et tout ce que ça évoque comme chose.
Et qu'arrive à faire passer Thomas Duryea à son jeune âge avec son corps qui tremble et on ne sait pas
ça
si.
Ça, oui, il a été menacé par quelqu'un.
Non, mais
je l'ai fait une fois. Non, je plaisante.
Non, mais juste.
Il n'y a même pas eu besoin.
Non, il est génial.
Je veux dire qu'il tremble et on ne sait pas s'il tremble parce qu'il ment et qu'il a peur de se faire gauler dans son mensonge ou parce qu'il tremble parce qu'il a réellement peur.
Ouais.
Mais c'est tous les pores de la peau, son visage, ses joues qui rougissent. C'est pas du maquillage.
Non.
Au début de la scène, il est entre guillemets normal, installé comme ça dans la voiture. Et au fur et à mesure, ça monte comme ça. Il rougit, il intériorise. Il est dingue.
Ouais. C'est un warrior. Le personnage, en plus, tel qu'il est écrit, c'est un petit guerrier.
Jusqu'à la garde, à ne manquer sous aucun prétexte. Vous l'avez compris, on l'a
absolument.
Aimé tous.
Ça a l'air bien.
Aimé ce film, ouais, absolument. Vous voulez rajouter quelque chose?
En fait,
merci.
Xavier Legrand, c'est un peu la naissance d'un immense metteur en scène. Mais je remarque que dans le cinéma, en tant que fan de cinéma, il y a le film Get Out aux États-Unis, par exemple, qui vous laisse un peu dans le même état.
Oui.
Et on parlait de Thomas Duryea, qui est un peu exactement le même personnage. Et c'est le social thriller, en fait. C'est un truc qui est en train de naître, et je trouve ça magnifique dans le cinéma.
C'est ça, sur une toile de fond que tout le monde peut connaître de la vie quotidienne, ça devient un film angoissant.
Ouais.
Et un véritable suspense mené à bien par Xavier Legrand. C'est son premier film, c'est une réussite.
Chapeau.
Avec Léa Drucker, Denis Ménouchet, Thomas Duryea, son premier film aussi. Et pourtant, ça cartonne.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Voici Tanguy Pastureau, largement temps. Pardon Tanguy.
Pardon. Je vous en prie.
Non, mais vous savez, Tanguy, à quel point vous me faites peur. Tanguy Pastureau, Jeff Koons, donc, a fait un cadeau à la ville de Paris.
Oui, Jeff Koons, c'est un artiste contemporain qui fait des chiens en ballon géant et les vend 50 millions de dollars parce qu'il est branché depuis 30 ans. Au contraire de Gérard Collomb, qui l'est depuis jamais. Il peut donc tout se permettre, prendre une clé de 12, la poser sur un pupitre et tous les couillons avec un carnet de chèques long comme la nuque de Candelero s'extasient en disant « Mais quelle vision !» Ils prennent alors à partie la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui capte que dalle à l'art contemporain. Elles sont obligées de dire « Ah, mais ce génie !» alors qu'elles regardent un renard empaillé lécher un micojet avec sur le flanc le logo McDonald's tatoué. Ce qui est une critique du capitalisme, de la chasse et des glaces, selon l'artiste. Un mec prostré dans un coin dont l'œil ne s'illumine que quand il voit Bernard Arnault lui acheter 25 millions un peigne repeint en jaune. Si on avait mis Mathieu Gallet dans une vitrine et qu'on l'avait exposé au palais de Tokyo en disant que c'était du Koons, Nyssen nous le laissait président de Radio France à vie. Et il sortait de la maison ronde les pieds devant en 2062. Toujours aussi beau, mais une beauté froide. Bref, tout ça, c'est de la connerie. Mais on peut pas le dire sous prétexte de passer pour un réac, un ringard. Moi, je peux parce que je suis réac. Je sais qu'hier était mieux qu'aujourd'hui. Dans la mesure où en 78, je pouvais passer la journée la main dans le slip à bouffer des gaufrettes, j'avais 4 ans. Alors que si je fais ça maintenant, Daniel Morin vient me dire « Mais enfin, tu trouves vraiment ça drôle de m'imiter ?» Donc, Jeff Koons peut tout se permettre, comme tous les gens qui ont du brosouf, Kev Adams, Kourtney Kardashian, Passepartout en septembre quand la 2 l'a payé pour Fort Boyard, et le coiffeur de Brigitte Macron lorsqu'elle vient de se faire gonfler ses 4 millions de bulbes au bec benzène. Koons a donc offert à la ville de Paris une une œuvre en hommage aux attentats du 13 novembre. Donc un artiste aussi coté qui fait un don, on se dit punaise, l'humanité n'est pas si pourrie que ça finalement. Et on annule le projet qu'on avait de partir vivre avec les cerfs du Center Park en Sologne. L'œuvre en plus est fabuleuse. C'est une main tenant des tulipes de 12 mètres de haut. L'art, ça a évolué. Du temps des Grecs, on faisait des petits sexes, bah maintenant on fait des grandes mains. Donc là, Anne Hidalgo, maire de Paris, se dit c'est génial. Ma ville n'est que racrevée et vélibrouillée. Ça va mettre de la couleur. C'est comme d'enfiler un t-shirt avec un gros smiley jaune à Louis Garrel.
Mais, il y a un mais. Ouais, non, je peux rien dire, malheureusement. Il y a un mais. Jeff Koons n'a pas offert réellement l'œuvre.
Non, mais juste le dessin de l'œuvre. C'est comme si au Mondial de l'Auto, vous disiez à votre compagne, ma petite biche, je t'offre un 4x4 en lui mettant dans les mains le catalogue Dacia à la page des Dusters. Il reste à payer l'œuvre, dont le coût de fabrication est de 3,5 millions d'euros. Donc là, Hidalgo s'est dit finalement, je vais finir la boîte de chocolat de Noël, découper le dessus, hein, le déjeuner sur l'herbe de Manet, une peinture sexiste où seule la dame est à poil, hashtag balance ton peintre, le mettre sous cadre et l'exposer, ce sera moins cher. Ou alors, pense-t-elle, on va faire appel à des mécènes qui, eux, vont régler les 3,5 millions, pas bête la guêpe. Seulement, ils bénéficieront d'abattements fiscaux, c'est la règle. Hein, donc au final, c'est le Parisien de base qui va payer. Fini les brunchs à 57 euros le dimanche, on va ruiner le bobo. Alors, autre souci, Jeff Koons, qui nous a filé un cadeau payant, hein, lui, pour la Saint-Valentin, il règle avec la carte bleue de sa femme, veut mettre ses tulipes devant le musée d'art moderne de Paris dans le 16e. Or, le truc fait 33 tonnes, autant qu'un sketch des Chevaliers du Fiel. Donc, il faudrait consolider le sol, parce qu'en dessous, il y a une salle d'expo du musée. Et personne n'a envie de se prendre des tulipes dans la tronche, hein, car ça signifierait avoir la vie de Dave, quand sur scène après Vanina, il n'a pas vu arriver le bouquet lancé par Josiane, une de ses plus jeunes fans, puisque née en 29. En plus, l'œuvre est censée être un hommage aux victimes du Bataclan, donc elle devrait être dans le 11e. Hein, mais Koons ne s'y connaît pas. Pour lui, la vie parisienne, c'est Neuilly, 16e, plus 3 maisons dans 17, limite 16e, et c'est tout. Si par erreur, un Uber l'emmène place de Clichy, il se roule en boule et attend la mort. Enfin, les spécialistes de l'art disent que ces tulipes n'ont rien d'original et qu'il en a fait 4 ou 5 pareils avant cet escroc. Hein, donc en fait, il avait un bouquet de tulipes à 3,5 millions. Hein, il s'est dit à quelle ville de Gugus je refile le truc, a vu le plug anal de la place Vendôme en 2014, la sculpture géante d'un type pénétrant son teckel devant Beaubourg en 2017, et la révélation, il a hurlé « Yes, enfin une ville qui a rien compris à l'art, allez, le bouquet, c'est pour Paris !» Et c'était plié. Hein, les attentats, ils s'en tapent. Le lieu de l'œuvre n'a rien à voir, le thème non plus, rien. Hein, c'est comme d'offrir une carte cadeau Body Minute pour un soin épilation à Sébastien Chabal. Jeff Koons nous prend donc pour des cons, soit ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Je peux dire ça, je suis réac. Alors je m'en fous, je mangerai bien un pépito en slip.
Merci Tony Passion.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Voilà, voilà. Enchaîne Coco on avec ça. Fou là. Non, mais c'est Tanguy Pastureau et voilà, c'est à revoir si vous le voulez sur internet avec sa chronique où il maltraite l'information et pas que l'information. Léa Drucker, Denis Ménochet sont à l'affiche, oui, de Jusqu'à la Garde, mais vous avez déjà d'autres projets. Au mois d'avril, Léa, vous serez à l'affiche de Place Publique, film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bac.
Enfin, c'est Agnès qui a réalisé, c'est Agnès Jaoui qui réalise, mais ils écrivent le scénar, toujours ensemble. Oui, ils écrivent ensemble.
Sur le monde de la télé, c'est ça?
Oui. C'est ce que j'allais dire.
Entre autres.
Oui. Avec votre patronyme, vous retrouvez dans ce film-là, est-ce que vous n'êtes pas un alibi?
Oh non, non, pas du tout. Ils sont pas cyniques comme ça.
Ils sont pas comme moi.
Non, on avait bossé ensemble.
Quel aveu.
Non, ils sont toujours. Moi, j'ai fait deux pièces avec eux, avec ouais. Agnès a remis en scène un air de famille.
Je ne me justifie pas du tout. Que faites-vous dans le film alors?
Moi, je joue le rôle d'une productrice de télévision.
D'accord.
D'émissions à succès.
La productrice de Castro.
Oui.
C'est ça, qui est donc...
joué par Jean-Pierre Bac.
Ancienne star du petit écran et qui est un animateur sur le déclin. C'est un film d'humour noir.
Oui, c'est-à-dire que c'est comme les films comme ils ont fait, comme Le Goût des Autres. C'est-à-dire c'est un film où ils mettent en scène leurs personnages principaux dans des situations parfois cruelles, mais ils ont toujours beaucoup de tendresse. C'est pas vraiment des cyniques, Agnès et Jean-Pierre. C'est des gens qui ont une vision de l'humanité parfois assez pessimiste, mais avec beaucoup d'humour, quoi.
Comment vit une
star. On s'y retrouve.
Comment on vit un déclin d'audimat, en fait? Comment c'est vécu par la productrice, par l'animateur?
Oui, c'est un film sur l'âge aussi, sur le fait que dans ces métiers, que ce soit la télévision ou ailleurs, parfois on sent que... Ben maintenant, on est dans le jeunisme, enfin, les animateurs ou les acteurs, les stars sont de plus en plus jeunes, enfin, je sais pas, il y a tout un truc, une réflexion là-dessus. Sur l'amour aussi, sur la vie d'artiste, quoi.
Et sur peut-être aussi le cloisonnement entre son métier et sa vie personnelle. C'est-à-dire que comment mettre un paravent,
se protéger. C'est très humain, c'est vraiment un portrait, c'est un portrait très humain d'un animateur de télévision sur la célébrité, sur le fait de vouloir rester, vouloir s'accrocher, tout ça. C'est des
et
thèmes.
C'est vrai que vous n'aviez aucun repère et aucune personne à qui demander quoi que ce soit.
Pourquoi tu parles de toi, Nagui? Enfin, te trottes pas comme
ça. C'est
sur vous, en fait.
Tu m'as pas appelé. J'ai peur que ce soit sur moi, c'est ça qui est plus.
Poser les questions. En fait. Il parle de quoi exactement? Il s'inspire de qui?
France Inter, la bande originale, le best-of.
Voici Juliette Armanet en live dans la bande originale.
Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je tenne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le cœur. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite, attends-moi, je sais qu'un jour tu viendras vers moi. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan. Il m'apprend le nom des étoiles tout en haut des cathédrales. Il joue la musique de l'espoir. Son piano pleure des larmes des voix. Je sens la caresse sur mon poignet de bracelet brésilien qu'il m'a donné. En disant quand il se cassera, alors ton rêve se réalisera. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. Je voudrais qu'ils m'embrassent sur les lèvres, pas comme une enfant. Y a pas que les grands qui rêvent, y a pas que les grands qui ont des sentiments. C'est comme une enfance qui s'achève dans un océan.
Best-of sur France Inter.
Voici Daniel Mohr.
Ah, l'amour, ce que c'est bon, nom de Dieu, c'est bon et c'est beau. C'est bon, c'est beau l'amour, surtout quand ça n'a pas de frontières. Non, l'amour est libre, l'amour est fier. L'amour est un papillon aux ailes de feu qui se joue des règles et règlements. Oui, les règles qui régissent l'amour ne sont que des obstacles bourgeois pour mettre bâton dans les roues de la passion. Les règles, c'est la jalousie des moches qui interdisent ce que leur physique ne leur a jamais autorisé. Et tout récemment, une magnifique histoire de retrouvailles s'est transformée en splendide histoire d'amour. Une belle histoire américaine. Ils étaient séparés depuis 18 ans et finalement, ils se sont retrouvés. Ils se sont vus, ils se sont aimés. Et c'est de cet amour qu'est né un enfant. Lui, c'est Steven. Elle, c'est Cathy. Malheureusement, Steven est le papa de Cathy.
Oh,
mais enfin, nom de Dieu, est-ce qu'un jour, on va foutre la paix aux gens qui s'aiment? Ah, oh, bon Dieu, les plus grands l'ont dit, l'ont hurlé, ils l'ont même chanté. Et vous, autour de cette table, hein, vous vous permettez par réaction, par vos réactions, de mettre à la poubelle les sublimes paroles de Roméo et Juju. Ah, vous n'êtes que des malades du cœur, des censeurs de la passion, des douaniers de l'amour. Voilà ce que vous êtes. Steven et Cathy s'aiment et nous devrions nous féliciter pour eux. Mais la différence, ça vous fait peur, hein, Nagui? Eux, ils sont libres, libres à l'extrême, c'est Steven ça. Et Cathy. Ils sont romantiquement à la cool. Heureusement qu'il existe encore des gens qui connaissent la tolérance et acceptent les unions sous toutes leurs formes, pourvu. Mais rien à voir, ta gueule, pourvu qu'elles soient sincères. Vous êtes d'accord avec moi, Père Albert?
Mais absolument, Daniel. Je suis surtout d'accord avec l'amour quand il unit deux êtres qui s'aiment à la folie. Le poète disait... Dans la déraison passionnelle se cache parfois la pudeur des sentiments.
Ronsard ?
Non, Émile Louis.
Ah. Et vous-même, mon père, avez-vous déjà uni des couples que la bonne société rejetait ?
Mais oui, des paquets. Comme ? J'ai marié un homme à sa voisine.
Et alors, c'est quoi le problème ?
Elle était morte depuis 2 ans.
Ah, ok, oui. Poursuivez.
J'ai marié un berger et son chien.
Oui.
Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai marié un frère et sa sœur.
Oh, racontez-nous.
C'était dans le nord de la France, le pays où les gens sont différents.
Non, non, non.
Avant de les marier, je leur ai demandé leur motivation et s'ils s'aimaient vraiment. Jean-Ké, est-ce que tu aimes vraiment... Mais vraiment, ta sœur Jaquette.
Oh, monsieur Kiri, je te jure, sur la tête à mon tracteur, je la kiffe, ma Jaquette. Je l'aime d'un amour qui est pur. Pur, mais pur.
Comme de l'eau pure.
Non, comme un ricard pur.
Et toi, Jaquette, tu l'aimes, ton Jean-Ké? Ah, je vois que c'est du sérieux. Ah... Si tous les amoureux étaient aussi engagés, ce serait le bonheur et peut-être même la paix sur la terre. Et pourquoi veux-tu épouser ta sœur, Jean-Ké?
Bah, je suis pour les gamins, je suis pour les ch'tios.
Pourquoi cela?
Pour renforcer les liens de la famille. Pour les enfants, je serai le papa et aussi le tonton. Jean-Ké, je serai la maman et puis la tata. Et les ch'tios, ils seront frères et sœurs et ils seront cousins et cousines. Oui, moi, Jean-Ké, moi aussi, je t'aime avec l'amour dedans.
Rien n'est plus précieux que la famille.
C'est vrai que c'est une belle histoire, tout comme l'histoire de Cathy et Steven.
Leur petit, son papa est aussi son papy. Et maman, c'est aussi sa grande sœur. Tellement de complicité.
Vous avez raison, mon père. Vive la famille. À demain.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Merci Hubert Agoud, Daniel Morin. Oui, oui, c'est malheureusement. Jusqu'à la garde, ça pourrait être aussi une histoire vraie. En tout cas, on y retrouve des choses de notre vie quotidienne.
C'est
la seule différence, c'est que c'est un film absolument sublime, doublement primé, on le rappelle, à Venise. Jusqu'à la garde, un véritable thriller sur cette toile de fond d'une vie quotidienne d'un couple qui se sépare avec 3 comédiens exceptionnels, Léa Drucker, Denis Ménochet et Thomas Gioria. Vraiment, allez voir ce film. Oui, ça fait peur, faut le reconnaître, ça donne la chair de poule, mais ça vous remet en connexion avec
la justice,
les plaisirs de la vie aussi. Non, vous sortez de la salle, vous avez envie de faire des câlins aux gens que vous aimez, ce qui est quand même une valeur essentielle aussi que peut procurer le cinéma. Pas à toi, j'ai dit aux gens que j'aime.
Tu nous as pas appelé, ouais.
Des excuses à proférer maintenant.
Désolé pour tous nos auditeurs qui auraient aimé, à juste titre, hein, que la rubrique animalière, nos amis les ours menés de main de maître par le dresseur Nagui, soit un peu plus longue. Soyez patients, la suite demain avec un zoom sexualité des chatons albinos. Désolé pour Pascal Elbé, François Berléand et tous les autres, je cite Nagui, les comédiens moyens mais prétentieux qui ont découvert ce matin avec Léa Drucker et Denis Ménochet, des comédiens accomplis qui tendent la main aux jeunes réalisateurs. Eh oui, les gens bien, ça choque, on n'a pas l'habitude.
Mais ça va pas.
Désolé pour Léa Drucker et Denis Ménochet qui avaient bêtement prévu de pouvoir en placer une pendant cette émission pour parler de leur film. Eh ben non, erreur les amis, erreur. En même temps, ça aurait pu être pire, vous auriez pu atterrir chez Trappenard.
Moi, je veux y aller chez Trappenard, moi.
Oh merde.
Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons là demain, même heure, même endroit, comme vous, j'espère. En attendant, voici les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Bonne journée.